Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors c'est le mois de mai, alors c'est bientôt l'été, les beaux jours arrivent, en tout cas on l'espère, parce que les derniers jours de l'hiver sont encore là. Mais notre perspective est tournée vers l'été, vers les mois à venir. Alors vous allez peut-être partir en vacances à la mer, au Touquet, à la Bretagne, en Bretagne, ou vous allez tout simplement profiter des parcs parisiens, le soleil, peut-être Paris-Plage. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de l'été? En fait, je vous parle de notre perspective. Et comment notre perspective du futur, l'été qui arrive, nous aide au présent à supporter les derniers jours de l'hiver. Et dans notre passage de ce matin, Pierre veut nous parler de notre perspective éternel. Nous allons voir dans cette lettre que ces chrétiens à qui Pierre a écrit devaient faire face à des situations difficiles, des situations de souffrance. Entre autres, on va le voir, des insultes, des calomnies pour le nom de Jésus, parce qu'ils étaient chrétiens. Et Pierre, on l'a vu la fois dernière, leur a écrit pour les aider à tenir bon dans l'épreuve, dans la souffrance. Et la semaine dernière, on a vu que pour les aider à tenir bon, Pierre leur a parlé de leur identité en Christ. Pierre voulait qu'ils n'oublient pas qu'en devenant disciples de Jésus-Christ, ils étaient devenus en quelque sorte des étrangers. Ils n'étaient plus chez eux sur cette terre parce qu'ils avaient une nouvelle identité, un passeport spirituel nouveau, un nouvel ADN spirituel. Car en tant que chrétiens, ils avaient été choisis par Dieu le Père, renouvelés au niveau de leur cœur, de leur ADN spirituel, par le Saint-Esprit, et acquis par Christ, par son sang versé à la croix, pour lui appartenir, pour lui obéir. Et Pierre sait que le chrétien qui oublie qui il est, qui s'attend à se sentir chez lui sur la terre, va avoir du mal lorsque les situations difficiles se présentent, lorsque les choses se corsent, quand c'est difficile de s'afficher avec fierté pour Jésus-Christ à la fac, au travail, à l'usine. Le chrétien va lâcher prise, il va abandonner. Mais s'il sait qui est Dieu et qu'il est à Dieu, qu'il lui appartient une fois pour toutes, il va prendre le courage, il va persévérer. Et ce matin, Pierre est venu donner des convictions fortes concernant notre avenir. Des convictions fortes qui vont nous aider à tenir bon quand les vagues arrivent, quand les tempêtes arrivent. Alors le mot qui revient plusieurs fois dans ce passage, c'est le mot « le salut ». Alors chez d'autres apôtres, Paul et Jean par exemple, le salut est à la fois une réalité présente, on l'a déjà, mais aussi une réalité à venir. Mais quand Pierre en parle, c'est la manière de parler de Pierre. Lui pense surtout à l'aspect futur, le salut qui est à venir. Et il est venu parler de ce salut ce matin, ce salut à venir. Il y a trois choses que Pierre veut inspirer en nous ce matin, susciter en nous. Pierre veut que la certitude d'un salut à venir suscite en nous une espérance vivante. Et ensuite une foi résistante. Et enfin, une reconnaissance humble. Ça, c'est les trois choses qu'on va voir dans ce passage. Une espérance vivante, une foi résistante et une reconnaissance humble. On va commencer avec ce premier point, donc une espérance vivante. Passage commence au verset 3 avec l'adoration de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons chanté ce matin. Nous avons loué notre Dieu. Notre adoration jaillit dans nos cœurs, non pas parce qu'on aime chanter ou parce qu'on aime la musique, mais parce que nous avons un Père qui mérite la louange. Et nous voulons le louer. Parce que, comme Pierre nous dit, nous savons qu'il est bon. Il a été bon envers nous, envers ceux qui ont mis la confiance en Jésus-Christ. Tout de suite après, donc, Pierre dit, conformément à sa grande bonté, il, donc Dieu, Dieu le Père, nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Selon sa grande compassion. Alors notre Père est un Père de compassion. Pourquoi ? Parce qu'il a agi. Il nous a fait naître de nouveau. C'est une petite expression qui veut dire que Dieu a changé nos cœurs. Il nous a donné un nouveau cœur. Alors, il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais brièvement, Pierre parle de la réalité de la nouvelle naissance. Nous l'avons vu la semaine dernière. L'homme par lui-même est incapable de vivre pour Dieu, incapable de l'aimer, de lui obéir. L'homme sans Dieu est coupable devant lui, mort dans ses fautes, dans sa rébellion. Il est comme un tas d'ossements secs. Mais Dieu, dans sa bonté, par son amour, peut nous rendre à la vie. Il nous donne un cœur de chair qui souhaite lui plaire, qui souhaite vivre pour lui dans l'obéissance. L'Esprit fait un travail de création. Il nous recrée. Celui qui a mis sa confiance en Christ, qui s'est accroché à lui, a été rendu à la vie par sa résurrection. Nous allons voir ça, en fait, bon, en tout cas ceux qui vont être là au deuxième culte vont le voir dans l'image du baptême. Marie et Étienne vont descendre dans l'eau, l'image de cette mort avec Jésus. Et ensuite, ils vont sortir de l'eau, une image de leur résurrection avec Jésus, la nouvelle vie avec lui. Et Pierre veut surtout dire ce matin à tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, mort pour leur péché, ressuscité pour leur donner une nouvelle vie. Il veut leur dire, à ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, que vous avez une espérance vivante. Votre espérance n'est pas vaine, elle n'est pas morte, elle n'est pas purement intellectuelle ou philosophique, elle n'est pas aride, mais profondément vivante, vraie, vivifiante. L'espérance chrétienne n'est pas simplement un placebo pour faire oublier la réalité de la vie ou la mort. Quand je parle parfois des responsables de la ville de la Garenne, il y en a un en particulier qui aime parler des effets bénéfiques de l'espérance. Alors personnellement, je ne sais pas à quel point il y croit lui-même, mais il croit que c'est bien de donner de l'espoir aux gens. Oui, mais à mon avis, c'est cruel si il s'agit d'un faux espoir. Mais notre espérance n'est pas fausse. Elle est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Un événement historique attesté par plein de témoins. Un événement qui est, à mes yeux, difficile de manière convaincante à contester. Alex a écrit un petit article pour Pâques dans le magazine ou le fascicule de Pâques. Il reste quelques exemplaires à la sortie. Dans cet article, il parle des preuves pour la résurrection. Notre espérance n'est pas vaine. Elle est bien attestée. Elle est fondée sur cet événement historique. Nous avons une espérance vivante. Mais qu'est-ce qu'on espère au juste ? Verset 4. Un héritage familial. Alors pour nous, l'héritage, l'idée d'un héritage familial rime parfois avec la tristesse parce que forcément, un proche est décédé. Ceci dit, peu de gens refusent un héritage familial. Et certains l'attendent avec joie, peut-être un peu avec trop de joie. Alors lorsqu'on parle de notre héritage en Christ, il y a eu également une mort, la sienne. Mais il y a eu aussi sa résurrection. Et tout comme le baptême le montre, le chrétien ressuscité avec Christ est ressuscité pour recevoir son héritage avec lui. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait un héritage. C'était la terre promise, c'était la terre d'Israël. C'était leur part, leur lot. De la même manière, les chrétiens ont une part, un lot, un héritage parce qu'ils appartiennent à Dieu. Ils sont en Christ, ils sont son peuple. Mais leur héritage est de loin meilleur par rapport à celui de l'Ancien Testament. C'est un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. C'est un héritage permanent, c'est un héritage qui ne va pas être dilapidé par des voyages, des voitures, des maisons. C'est vrai, dans cette vie, il y a peu de choses, voire rien, qui est permanent. Et tout se souille tôt ou tard, tout perd son éclat. Mais l'héritage qui est le nôtre en Christ est impérissable. Ça nous rappelle un peu l'enseignement de Jésus sur la montagne, le serment sur la montagne. Donc il y avait Pierre qui était là à ses pieds, donc je pense que Pierre a bien écouté, donc ce matin il l'applique d'une manière particulière. Donc Jésus a dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas, où ne peuvent pas percer, les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En fait, notre héritage, c'est notre présence avec lui dans l'éternité. C'est le fait de recevoir avec lui la nouvelle création, d'en faire partie. Dans un sens, on peut dire que c'est Jésus-Christ lui-même qui est notre héritage. Il est notre part. Cet héritage qui est impérissable. Et cet héritage céleste vous est réservé dans le ciel. Verset 4, là où Jésus se trouve. Et c'est Dieu qui le garde. Et c'est pour ça qu'on peut être sûr de l'avoir. Personne ne peut le lui prendre. C'est lui, Dieu, qui veille là-dessus. À la fin du verset 5, nous voyons que nous l'aurons lorsque le salut arrive. Lorsque Jésus lui-même revient sur la terre. Et Pierre nous invite à voir cette perspective orientée vers l'avenir, vers ce salut qui arrive. L'été arrive, les beaux jours arrivent. Dans la souffrance, dans les souffrances communes à tous les hommes, pensez à la maladie, la mort, le chômage, le divorce, il y a plein de choses comme ça. Et aussi dans les souffrances pour Jésus, les souffrances des chrétiens qui sont attachés à lui. Nous avons besoin de fixer nos yeux sur cet héritage à venir, sur ce salut à venir, sur Jésus-Christ lui-même. C'est tellement facile d'avoir les yeux fixés sur autre chose, n'est-ce pas? Sur notre travail, sur nos soucis, sur nos ambitions professionnelles ou familiales. Cet héritage-là, bien terrien, terrestre, si je puis dire, se souille. Il perd son éclat si facilement. Et Pierre veut que nous voyions que ce qui nous attend est de loin meilleur, qu'il est vraiment digne de notre attention, de notre affection. Je pense que nous avons sans doute tous, moi le premier, à demander pardon pour, parce que si souvent notre trésor n'est pas au ciel, mais ici-bas. Nous voyons au verset 5 que Dieu nous garde, sains et saufs aussi. Et Pierre emploie une métaphore militaire pour dire que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, nous reconnaissons à quel point nous sommes faibles et à quel point notre Dieu est fort. Alors peut-être ce matin vous vous sentez particulièrement faible, vous êtes conscient de votre faiblesse. Peut-être la semaine a été difficile. Et parler de l'espérance est très bien, mais vous avez l'impression que vous allez lâcher prise. Nous pouvons avoir l'impression parfois que tout s'écroule. En fait, que nous n'allons pas persévérer. Mais vous savez, c'est Dieu qui nous garde. C'est lui qui monte la garde. Alors comment exactement? Nous le voyons au verset 5 aussi. Au moyen de la foi. Et Pierre parle de notre foi, de notre confiance en Dieu. Dieu est puissant, mais il nous garde puissamment par ce moyen qui nous semble si faible, si petit, à savoir notre foi. Il nous fait persévérer jusqu'à la fin par notre foi. Notre foi, lui, est précieuse. Même si elle est petite, même si elle est si faible, dans les mains de Dieu, elle est puissante. Elle nous fait parvenir à ce salut. Mais comment est-ce que cette foi va résister? Comment est-ce qu'elle va persévérer jusqu'à la fin? Alors avant de parler de la foi résistante, revenons au verset 3. Béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre nous invite au verset 3 à alimenter notre foi en louant Dieu, en nous rappelant combien il est bon, combien il est rempli de compassion à notre égard. Et Pierre nous invite à bénir Dieu pour cet héritage, pour cette promesse d'une place dans la maison du Père, comme nous avons chanté tout à l'heure. Si nous allons fixer nos yeux sur cet héritage à venir, si nous allons être un peuple d'avenir, d'espérance, nous avons besoin de chanter les louanges de Dieu. C'est en faisant ça que nous informons nos cœurs que nous n'avons plus à tourner en rond ou à regarder en bas, mais à espérer en Dieu, à nous languir après ce salut à venir. On peut nous poser la question, est-ce que nous louons Dieu? Oui, on le fait le dimanche matin à l'église parce que le président se lève, il nous demande aussi, il nous invite à nous lever, on chante, et c'est très bien, mais est-ce qu'on loue le Seigneur? Est-ce que en place dans notre esprit ce qu'il a fait? Est-ce que nos cœurs jaillissent? Est-ce que l'adoration jaillit de nos cœurs? Est-ce qu'on le fait en semaine? Peut-être on peut le faire le matin devant la glace, dans la salle de bain ou au volant de la voiture. Est-ce qu'on peut simplement dans la prière nous souvenir de ce que Dieu a fait et le remercier? Le remercier du fond de nos cœurs. C'est comme ça que nous alimentons notre foi. Nous avons une espérance vivante. Et nous avons aussi, grâce à Dieu, une foi résistante. C'est notre deuxième point ce matin. Et c'est ce que nous voyons du verset 6 au verset 9. Et Dieu tient à ce que notre foi résiste. Si nous avons une espérance d'un héritage familial impérissable, un héritage en Dieu, nous sommes dans la joie. Cet héritage fait notre joie. Christ est notre lot. Il est notre part. Nous avons la meilleure part. Et ça, c'est notre joie. Et nous apprenons au verset 6 que cette joie, c'est une joie qui dépasse même les circonstances les plus difficiles. C'est une joie qui n'est même pas éteinte par la souffrance. Verset 6, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Pierre nous dit qu'on peut se réjouir même dans l'épreuve. Pierre évoque les épreuves de la vie, les épreuves que nous connaissons tous, mais aussi peut-être en particulier les épreuves que nous connaissons parce que nous sommes à Jésus. On va la voir dans la suite de cette lettre. Les épreuves qui sont les nôtres parce que ce monde n'est plus le nôtre. Il y a cette dissonance, on est dans le monde, mais on attend celui à venir. Le verset 6 nous dit que ces épreuves qui sont difficiles, notre version ici parle de manière lucide de notre tristesse. Pierre nous dit que ces épreuves ne sont que pour un peu de temps. Dieu est bon. Il est compatissant et ces épreuves ne durent pas. Dieu y a mis un terme. Je pense que ça peut être un soulagement pour ceux qui se trouvent plein dedans en ce moment. Dieu y a mis un terme, donc c'est pour un peu de temps. C'est vrai qu'on n'est pas tous les tenants et aboutissants de ce temps du Dieu qui tient l'éternité dans ses mains. Nous voyons également que ces épreuves sont nécessaires, puisqu'il le faut, nous dit Pierre. C'est curieux comme expression. Elle nous montre que Dieu est là-dedans. Il ne s'est pas absenté, mais il maîtrise la situation. Il nous laisse passer par là, exprès, selon ses décrets qui sont pour nous un mystère. Mais il a une intention, il a un plan. Nos épreuves sont nécessaires, puisqu'il le faut. Et ensuite, de manière souveraine, Dieu les écourte. Alors, on aimerait, bien sûr, une vie facile, n'est-ce pas? Moi, je ne choisirais jamais de passer par des épreuves difficiles. Si c'était à moi, j'opterais vraiment pour une vie facile, une vie avec que des bénédictions. Moi, j'écarterais toute possibilité même d'une épreuve. Mais la Bible ne nous promet pas une vie chrétienne comme ça. Maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Bon, c'est vrai, c'est possible d'aller sur Internet ou regarder la télé, peut-être sur le câble, et trouver des prédicateurs qui vont nous promettre une vie chrétienne où il n'y a que des bénédictions sur bénédictions. Si on est obéissant dans tel ou tel domaine, ou si on donne de l'argent, peut-être si on leur donne de l'argent. Mais on sait que tout ça est complètement faux. Ce sont de mensonges qui sortent du fond de l'enfer, en quelque sorte. Ce sont de faux enseignants. Ils enseignent le contraire de ce que Pierre nous dit dans la parole. En fait, il nous faut une théologie robuste de la souffrance. Si on va tenir bon, c'est Dieu qui nous fait passer par des épreuves. Alors, il ne faut pas y voir de la condamnation. Il ne faut pas y voir l'abandon de Dieu non plus. C'est tentant de comprendre nos épreuves de cette manière-là. Mais si on pense comme ça, on va couler. Certes, Dieu est peut-être en train de nous discipliner. Peut-être il est en train de nous conduire à la repentance, il ne faut pas qu'on l'exclue. Mais nous sommes ses enfants. Et nous sommes ses enfants à tout jamais. Pierre ici nous montre que les épreuves qui sont nécessaires pour un peu de temps ont pour vocation à démontrer l'authenticité de notre foi. Et Pierre utilise une illustration pour en parler. L'illustration de l'or qui est éprouvé par le feu. L'or, cet objet précieux, est fendu par le feu. On peut aller dans ces magasins, il y en a à Colombes, où on peut vendre de l'or. Et ensuite, ils le font fendre pour l'épurer et pour en faire autre chose. De la même manière que l'or est soumis au feu, il y résiste. Il se montre authentique. Dieu soumet notre foi au feu des épreuves. Et par la grâce de Dieu, elle y résiste. Elle se montre authentique. Et au dernier jour, elle, la foi, recevra la louange, la gloire et l'honneur. Elle recevra son prix, l'objet de son objet, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Au verset 8 à 9, Pierre parle de la nature même de cette foi. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Cette foi par laquelle Dieu nous garde, cette foi qui met pourtant à l'épreuve, a pour objet Jésus-Christ lui-même. Comme ceux qui ont reçu cette lettre de Pierre, nous, nous n'avons pas vu Jésus physiquement, mais nous croyons en lui et nous l'aimons. C'est ça la foi. La perspective d'être avec Jésus est notre joie indescriptible et glorieuse. Et les épreuves nous focalisent sur Jésus. Elles épurent notre foi pour que notre joie soit en lui, pour que Jésus soit notre seul et véritable trésor. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va mépriser tout ce qui n'est pas Jésus, mais ça veut dire que notre vraie joie, notre vraie consolation, notre vraie espérance sera en lui, en Jésus seul. Dans l'épreuve, nous ne devons pas nous focaliser sur les épreuves, chose qui n'est pas facile, j'en conviens. Mais nous devons dire à nos cœurs, voire exhorter nos cœurs, à bénir Dieu notre Père pour Jésus. Pour instruire nos cœurs, peut-être dans le silence, peut-être au volant de la voiture, à dire à soi-même, en fait, quoi qu'il arrive, je suis à Jésus. Quelle que soit la lourdeur de cette épreuve, j'ai une espérance. Mon espérance, c'est Jésus lui-même, c'est lui mon héritage. Oui, en effet, j'ai plein de problèmes. Il y a la mort, il y a la maladie, il y a le chômage, il y a les problèmes financiers, familiaux. Il y a peut-être les insultes pour le nom de Jésus, au travail, à la fac. Il y a peut-être même des calomnies, des persécutions. Mais je peux dire, je suis à lui. Je suis le sien. Il est mon lot, ma part. Et un jour, je serai avec lui, face à face, car je suis l'héritier du grand roi. Je suis un enfant du bon Père Céleste, de mon bon Père Céleste. Et c'est en nous rappelant ces choses que la joie revient, qu'elle refait surface, qu'elle envahit nos cœurs éprouvés, qu'elle nous fait persévérer. Même dans la tristesse, cette tristesse qui est si naturelle, cette tristesse qui est si légitime. Oui, ce n'est pas une joie qui fait que nous n'éprouvons plus la tristesse, mais c'est une joie réelle, profonde, paisible, confiante, qui dépasse cette tristesse. C'est une joie qui espère en Dieu. L'apôtre Paul, en prison, a dit une fois dans une lettre à l'église de Philippe, il a dit « En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. » Et un peu plus loin dans cette même épître, il dit « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. » Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Dieu éprouve notre foi, il a fait pour Paul, l'apôtre Paul, là en prison, pour que notre foi s'accroche à Jésus seul, pour que Jésus seul soit notre trésor. Lui qui, en effet, nous fait parvenir au salut, à la résurrection d'entre les morts. On a une espérance vivante. Une espérance vivante qui donne une foi résistante. Et enfin, ça crée en nous une reconnaissance humble. Nous sommes à ce dernier point pour ce matin, une reconnaissance humble. Il me semble que dans les derniers versets de ce passage, les versets 10 à 12, Pierre veut susciter en nous une reconnaissance humble. Et cette reconnaissance humble, c'est aussi ce qui va nous permettre de persévérer dans l'épreuve. Et Pierre suscite cette reconnaissance humble en parlant de notre privilège, notre immense privilège. C'est un peu caché dans notre traduction de la Bible ce matin, dans notre version de la Bible, mais cette phrase au verset 10 commence avec les mots concernant ce salut. Les prophètes de l'Ancien Testament ont fait des recherches et des investigations concernant ce salut. Ces prophètes ont parlé du Christ, du Messie à venir, de ses souffrances et de sa gloire. Ça nous fait penser au passage comme Ésaïe 53. Le serviteur promis allait souffrir avant de connaître la gloire. Et les prophètes de l'Ancien Testament voulaient savoir quand tout ça allait venir. Ils ont prophétisé, ils ont annoncé ces choses. Mais c'est les lecteurs de cette épître de Pierre, qui allaient profiter de ce message. C'est eux qui allaient comprendre, et nous avec eux, ils allaient comprendre qu'il s'agissait de Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité le troisième jour, monté au ciel 40 jours après, régnant aujourd'hui à la droite du Père, prêt à revenir à n'importe quel moment pour juger et pour sauver. Avec les lecteurs de cette épître, nous avons reçu cet évangile. C'est nous qui sommes au bénéfice de ce message de vie. Pierre dit, les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Pierre veut que nous voyions que nous sommes des vénards, des privilégiés. Nous avons le message du Messie, ce message de vie, un message de l'espérance, parce qu'en lui, nous avons un héritage impérissable. Pierre est soucieux de nous montrer que ce message ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas un plan B de Dieu qui devait changer d'avis pour rectifier le tir ou quelque chose comme ça. Mais Dieu l'avait soigneusement préparé d'avance. Et même les anges désiraient plonger leur regard pour comprendre ce message. Mais nous sommes, comme les premiers lecteurs de cette lettre, ceux qui ont ce message de salut. Dieu nous avait en tête. Dieu avait préparé ça pour nous. Et du coup, la reconnaissance humble jaillit. Pourquoi nous? C'est la grâce. Ésaïe, qui avait prophétisé des centaines d'années avant Christ, avait anticipé ce jour. Mais nous avons vu ce jour. Quel privilège! Nous avons vu l'aboutissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et Pierre va nous montrer ce thème dans la suite de cette épître. Pierre est également soucieux de nous montrer que tel maître, tel disciple, si Jésus a souffert tout comme ça a été annoncé des centaines d'années avant, nos vies vont également être marquées par cette souffrance avant de connaître la gloire, tout comme Jésus a connu la gloire. On va recevoir ce salut. Une espérance vivante qui donne une foi résistante. Et enfin, lorsqu'on comprend notre privilège, ça suscite une reconnaissance humble qui nous conduit à dire « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Dans la suite de cette lettre, Pierre va nous montrer comment vivre. Nous ne sommes pas chez nous dans ce monde. Nous devons vivre non pas avec les valeurs du monde, mais avec les valeurs de Jésus, les valeurs de notre nouvelle patrie à venir, de ce salut à venir. Ici, bas, en attendant, c'est vrai, il y a cette dissonance. Elle peut être plus ou moins grande. Ça implique parfois même la souffrance, les insultes, les calomnies. Mais si nous allons tenir bon, il faut que nous restions attachés à cette espérance, à ce Jésus qui va revenir nous chercher, nous donner notre héritage. Nous sommes des privilégiés. Oui, parfois, ces jours d'hiver traînent un peu, et ces jours nous peinent, nous attristent. Mais l'été arrive, les beaux jours arrivent, enfin, Jésus arrive, notre salut arrive. Et Dieu veut que nous fixions nos yeux sur lui. Lui qui est notre joie, notre consolation, notre part, notre héritage. Bénissons Dieu pour cette espérance. Bénissons notre Père, même dans l'épreuve, pour Jésus. Dans les épreuves par lesquelles Dieu, dans sa souveraineté, nous fait passer pour un peu de temps parce qu'il le faut. Demandons-lui de nous aider à fixer nos yeux sur Jésus. Et de goûter sans cesse à combien il est bon. Demandons-lui de nous aider à lever nos têtes pour le voir et de voir qu'il revient bientôt. Je vous invite à la prière. On m'a demandé au Seigneur justement de nous aider à fixer nos yeux sur cette espérance et à avoir cette joie même dans l'épreuve.